aujourd'hui, je reviens sur la deuxième chose que je n'avais pas achevée. Et cette deuxième chose concerne la nouvelle naissance. Donc, la deuxième chose incontournable, je vous l'avais déjà annoncé, concerne la nouvelle naissance. Et nous rentrons lire dans Jean chapitre 3, du 1er au 7e verset, la Bible dit ceci, qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit que, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux ? Faut-il qu'il rentre dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ici dans ce passage, la Bible nous raconte l'histoire de la visite nocturne de Nicodème à Jésus-Christ. Cet homme de Nicodème incarnait tout ce qui était de mieux dans la communauté juive de son époque. La Bible le présente en disant que c'était un homme pieux. C'est-à-dire Nicodème n'était pas un païen. La Bible dit qu'il était un pharisien. Je dirais un ami des Écritures. Non seulement pharisien, la Bible précise aussi qu'il était un chef du peuple, c'est-à-dire un membre du Sanhédrin parmi les leaders du peuple juif de son époque. La Bible dit aussi qu'il était un docteur de la loi, donc un enseignant de la parole de Dieu, un connaisseur. Et si nous allons lire entre les lignes, nous allons comprendre que Nicodème était un homme qui était attaché à Dieu. Nicodème était un homme qui pouvait prier plusieurs fois par jour, comme le faisait le pharisien, qui pouvait être fidèle avec ses dîmes, avec ses offrandes, qui pouvait donner des aumônes et qui était un homme bien regardé par la communauté. La Bible nous dit que cet homme a observé Jésus-Christ faire le ministère. Mais il était membre du Sanhédrin, il était pharisien. Et en tant que pharisien, il avait un obstacle. Parce que ce sont justement les pharisiens qui s'opposaient au ministère de Jésus. Alors Nicodème va décider de rendre visite à Jésus-Christ la nuit. Il avait ses raisons. La Bible nous dit que lorsqu'il voit Jésus la nuit, il commence par des éloges. Je vais souligner ici des éloges. Faites attention avec les éloges dans la vie, surtout en ce qui concerne la vie chrétienne. Faites très attention, très attention. Lorsque vous chantez, lorsque vous prêchez, lorsque vous faites quelque chose et vous avez toujours quelqu'un à côté. Oh frère, aujourd'hui c'était formidable. Je n'ai jamais entendu un message comme celui-ci depuis que je suis né. Faut toujours faire attention. Vous ne savez pas la voix qui vous parle. Et s'il faut répondre, il faut dire oui, merci frère, prie pour moi et arrête-toi là-bas. Nicodème est allé voir Jésus-Christ. Il a commencé par des éloges. Oh Seigneur, je sais que tu es, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais là, personne ne peut le faire. Et la réponse de Jésus-Christ, il lui dit, en vérité, je te l'ai dit, un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Le sujet est déplacé. Bien-aimé, la chose qu'on appelle nouvelle naissance C'est une vérité incontournable. Si nous voulons un jour entrer dans le parvis du ciel, notre notoriété, comme la notoriété de Nicodème, notre vie pieuse, comme la vie pieuse religieuse de Nicodème, notre ministère, comme le ministère de Nicodème, nos offrandes, nos dîmes, notre position sociale, toutes ces choses-là ne peuvent pas nous garantir la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien. J'ajouterai même notre savoir parler, notre niveau d'études, notre beauté, toutes ces choses-là ne nous garantissent pas la vie éternelle. C'est ce que Jésus fait comprendre à Nicodème. Jésus lui parle de la nouvelle naissance pour lui faire comprendre que tout ce que tu as jusqu'à date là, ça ne te qualifie pas à la vie éternelle. Et je m'arrête pour te poser aussi la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu crois que si le maître répond et revient aujourd'hui, tu pourras vraiment passer l'éternité avec lui? Et si tu peux aujourd'hui passer l'éternité avec lui, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur ton ministère? Parce que tu chantes, parce que tu prêches, parce que tu diriges la prière, eh bien, cela devient un certificat pour le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça ce qui qualifie. Ce qui qualifie, c'est la nouvelle naissance. Amen. Mais qu'est-ce à dire la nouvelle naissance? C'est ça la vraie question que nous regardons. Qu'est-ce à dire la nouvelle naissance? Ici, je vais regarder avec vous trois petites choses, trois petites vérités. La première vérité que je regarde avec vous en rapport avec la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance est le début d'une vie nouvelle. Vous pouvez écrire ça, la nouvelle naissance est le début d'une vie nouvelle. On définit généralement la naissance naturelle, comme étant le début de l'existence d'un être vivant, le début de l'existence autonome d'un être vivant. Et cette naissance intervient lors de l'accouchement du bébé par la mère. Mais lorsque nous parlons sur le champ spirituel de la nouvelle naissance, ce que nous devons comprendre, c'est que la nouvelle naissance est le début d'une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie que nous commençons lorsque nous ouvrons notre cœur au message de l'Évangile et lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui est différente de la vie que j'ai menée depuis que je suis venu au monde de façon naturelle. Le fait de parler de la nouvelle naissance suggère qu'il y a déjà eu une première naissance qui aujourd'hui est appelée ancienne ou vieille naissance. Et cette vieille naissance qui a été la première naissance, c'est la naissance naturelle que nous avons eue lorsque notre maman nous a mis au monde. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, la nouvelle naissance, lorsque Dieu l'opère dans votre vie, elle implique une rupture nette avec les valeurs morales et spirituelles que vous avez héritées soit de vos ancêtres, soit de votre environnement, pour commencer désormais à mener sa vie selon les valeurs de l'évangile du royaume. Et si je vous pose la question, depuis que vous êtes dans le Seigneur, est-ce que vous avez observé une différence entre votre façon d'être et de vivre avant de donner votre vie à Jésus-Christ et votre façon d'être et de vivre après avoir donné votre vie à Jésus-Christ? Allô? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Avant de venir à Jésus-Christ, j'étais la voix du Zaïre. C'est-à-dire, tout le monde m'entendait. Je parlais partout. Je parle partout. Mais à partir du moment où tu as donné la vie à Jésus-Christ, est-ce que tu observes une différence ou tu observes que le même virus continue à se coller à toi? Écoutez mes amis, écoutez. Sur la terre là, tout va passer. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Même les églises ici, passeront. ne passera pas? C'est la parole de Dieu. Et il est important que nous, en tant qu'église, on vous dise la vérité. Regardez-vous, regardez-vous. Dites, il y a 15 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais avant 15 ans, d'abord, dans tous les domaines de la vie, regarde ton rapport avec ton mari. Comment tu te conduisais? Ton rapport avec ta femme, comment tu te conduisais? Peut-être que avant de croire, tu fréquentais tous les hôtels de la ville. Pas de problème. Mais le jour où tu as donné la vie à Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un changement qui est intervenu dans votre vie? S'il y a un changement, que Dieu soit béni, tu es sur la bonne voie, frère.
Amen.
J'ai fréquenté 1000 hôtels, mais aujourd'hui, quand tu me vois, je ne suis plus ces gens-là. J'ai déjà dit, il faut dépasser certains niveaux dans ma vie, frère. Il y a le niveau où je pouvais me plaire dans des choses vaines de ce monde. Mais quand je suis devenu une nouvelle créature, je pars. Et ce que je veux vous révéler ce matin, c'est quoi? Si vous n'observez pas la différence entre ce qu'était votre vie avant de croire et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas encore né de nouveau.
Amen.
Si avant de croire, vous vous souliez, donc vous vous saoulez, vous enlevez votre blouse et vous jetez. Après avoir cru, vous vous saoulez, vous enlevez la blouse, vous jetez. Non, non, vous n'êtes pas encore né de nouveau.
Amen.
Donc on doit prier Dieu pour que Dieu vous fasse grâce.
Amen.
Si avant votre foi, vous étiez dans toutes les femmes, dans tous les hommes ici de la rue, et après votre foi, vous êtes encore avec la même ampleur dans tous les hommes et dans toutes les femmes de la rue. Non, 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 non. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Même si vous prêchez, vous me prêchez la parole, n'est-ce pas? Moi, je l'écoute et moi, je suis sauvé, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous devez travailler pour que vous puissiez naître de nouveau. Parce que la Bible est claire que personne, au verset 5, il dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 3, il dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais voir, frère, même à distance pour voir, ça ne sera pas permis que tu puisses voir. La deuxième vérité que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est que la nouvelle naissance dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, que « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Très important ce verset. Très, très, très important. Il dit que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ça c'était la première condition que nous avons regardée dimanche passé. Ceux qui croient en lui, Dieu leur donne maintenant le pouvoir. Remarquez bien, Dieu leur donne le pouvoir. Elle, c'est la parole, c'est Dieu. Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire tout simplement que on ne peut pas devenir enfant de Dieu par le moyen charnel. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur que moi aussi je suis automatiquement enfant de Dieu parce que mon père est pasteur. Ce n'est pas parce que ma femme veut que je sois enfant de Dieu que je le deviens. Ce n'est pas parce que mon mari veut que je sois, il veut. C'est ça ce que la Bible dit, non pas de la volonté d'un homme. Un homme a la volonté, c'est notre souhait à nous tous. Je préfère que vous tous, si vous soyez des enfants de Dieu, je préfère que tous ceux qui sont dans la rue soient des enfants de Dieu. Mais malheureusement, ma volonté ne suffit pas. Il faut que Dieu lui-même fasse quelque chose dans votre vie en réponse à votre confession de foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère, que personne ne vienne te dire que non, j'ai fait de toi un enfant de Dieu. Que personne ne vienne te dire que non, si tu me suis moi, réellement, tu vas être sauvé. Non, dis-lui, si je suis Jésus-Christ, alors je vais être sauvé. Donc, contrairement, c'est ça ce que le texte nous dit, contrairement à la naissance charnelle, qui dépend de la volonté ou qui a dépendu de la volonté de mon père et de ma mère pour que je puisse naître, la naissance spirituelle ou la nouvelle naissance ne dépend que de la volonté de Dieu et c'est Dieu seul qui en est l'auteur. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Que nous puissions croire en Jésus-Christ et nous lui laissons la suite, lui va opérer ce miracle. La troisième chose qui va me conduire vers la fin, C'est la question de savoir comment Dieu procède pour pouvoir opérer la nouvelle naissance dans la vie d'un homme. Puisque, un, je vous ai fait comprendre que la nouvelle naissance est une vie nouvelle que nous commençons lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Deux, cette nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul, pas l'œuvre d'un homme. Et trois, comment est-ce que Dieu procède pour pouvoir opérer la nouvelle naissance dans la vie d'un homme? Et suivez-moi très bien. Dans le monde de la médecine aujourd'hui, il existe un phénomène que nous appelons le phénomène de la transplantation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un possède dans son corps un organe qui est malade, un organe qui est infecté, mais cet organe infecté ne peut pas être soigné. Suivez-moi bien. Qu'est-ce que les médecins font pour pouvoir sauver la vie de cet homme ou de cette femme? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'enlever ce cœur malade, d'enlever ce rein malade, d'enlever ce poumon malade, de le jeter à la poubelle et de le remplacer par un autre poumon. Si on fait cela, c'est-à-dire si on fait la transplantation d'un nouvel organe, c'est qu'on vous donne la chance de poursuivre votre vie. Le survol de la Bible maintenant dans le domaine spirituel nous fait voir que nous faisons face à un phénomène similaire dans le processus de la nouvelle naissance. D'abord, ce que nous retenons de la Bible, c'est que depuis la chute d'Adam, le cœur de l'homme est devenu le siège de toutes sortes de corruptions. Le cœur de l'homme est devenu le siège de toutes sortes de virus. Donc, ce cœur est malade. Le cœur de l'homme est malade. Voilà pourquoi Jésus déclare dans Matthieu chapitre 15 que ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui suit l'homme. Mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Et Jésus précise, ce qui sort de l'homme, ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Et il ajoute, du cœur viennent toutes les mauvaises pensées. Les pensées de la corruption, les pensées des viols, les pensées des drogues, les pensées des violences, toutes les mauvaises pensées imaginables, ça vient du cœur. Cela nous enseigne que depuis la chute d'Adam, l'homme est porteur d'un cœur qui est infecté par une maladie qui ne peut pas être soignée. Étant donné que le cœur de l'homme est tellement malade qu'il ne peut pas être soigné, ce qui fait qu'il y a deux choix qui se présentent. Soit il faut l'extraire et le remplacer pour permettre à l'homme de continuer à vivre, soit alors il faut le laisser et l'homme marche tout droit vers la mort. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi la nouvelle naissance est importante. Eh bien, comment Dieu procède maintenant? La Bible nous dit dans Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 26, Dieu dit que « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Notez ça bien. Le Dieu de gloire qui vous aime, il sait que le cœur que vous portez, c'est un cœur malade qui vous conduit à la mort. Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi il parle à la fois du cœur et de l'esprit? C'est pour vous faire comprendre que le cœur dont il est question ici, ce n'est pas le cœur physique qui pompe le sang pour que vous puissiez vivre. Non. Le cœur dont il est question ici, c'est l'esprit. C'est l'esprit de l'homme. C'est dans l'esprit de l'homme que se trouvent toutes les mauvaises pensées et même toutes les bonnes pensées imaginables. Et lorsque Dieu dit que je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un très beau jet de mots. Le cœur de pierre? C'est quel cœur? C'est le cœur endurci qu'on a hérité de la nature. Quand on est un homme naturel, le vieil homme là qui est né dans le monde, il a un cœur. Ce cœur a été endurci par les virus. Vous voyez les virus qui sont venus d'Adam? Lorsque les virus se multiplient, le cœur devient comme une forme de kyste, comme une pierre dure. au point que quand on vous dit une bonne chose qui touche à votre propre vie, ça entre par ici, ça sort par là, parce que le cœur n'est pas capable d'accueillir. Il est un cœur de pierre. Vous savez que dans la Bible, la parole de Dieu est symbolisée par l'eau. Lorsque vous versez de l'eau sur la pierre, qu'est-ce que ça fait? Ça coule partout, mais ça ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la pierre. Et quand Dieu parle du cœur de pierre, tout homme naturel est doté d'un cœur de pierre. Et avec ce cœur de pierre, il est incapable d'accueillir la parole de Dieu et incapable de produire des fruits. Raison pour laquelle, et puis le cœur de pierre, tellement qu'il est dur, c'est un cœur qui conduit sans faute à la mort. Et il y a urgence pour que Dieu vienne l'enlever et le remplacer par un cœur tendre, un cœur de chair, un cœur sur lequel il va planter maintenant les vertus du royaume. Un cœur sur lequel il va planter l'amour, un cœur sur lequel il va planter la joie, un cœur sur lequel il va planter l'obéissance pour vous permettre maintenant de vivre. Et c'est ce que Dieu continue à nous dire au verset 27 quand il dit que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec le cœur de pierre, l'homme est incapable de suivre les ordonnances de Dieu, malgré sa bonne volonté. Avec le cœur de pierre, l'homme est incapable de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que c'est votre cas, frère? Avez-vous de la difficulté à pratiquer la parole de Dieu? Avez-vous de la difficulté à obéir à la parole de Dieu? Même les choses qui sont dites noires sur blanc, hein, où on n'a pas besoin de prophétie, on n'a pas besoin d'interprétation. C'est dit noir sur blanc. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est noir sur blanc. Marie, soyez fidèle à vos femmes. C'est noir sur blanc. Ne pratiquez pas l'impudicité ou la débauche, parce que les débauchés et les impudiques n'entreront pas dans le ciel. C'est noir sur blanc. Est-ce que vous avez, malgré votre bonne volonté, est-ce que vous avez de la difficulté à accepter cela? Ah, il faut regarder sur quel cœur cette parole est semée. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ est en train de revenir et nous avons tout intérêt à nous préparer pour que nous puissions aller à sa rencontre. Dieu a besoin de nous voir changer. Il a besoin de nous voir accepter Jésus-Christ avec notre cœur tout entier. Et ainsi, lui-même va opérer un miracle dans notre vie. Le miracle de la nouvelle naissance, il va enlever notre ancien cœur qui nous empêche d'obéir à la parole de Dieu et qui nous empêche d'être sauvés. Lui-même va nous donner un nouveau cœur. Et à partir du moment où il nous donne ce nouveau cœur, nous sommes alors nés de nouveau. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et en devenant des nouvelles créatures, c'est que nous sommes qualifiés pour la vie éternelle. Je regardais avec vous deux conditions ou deux choses incontournables. La première chose incontournable pour se qualifier à la vie éternelle, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur de sa vie. Et je vous ai précisé qu'accepter Jésus-Christ, ce n'est pas croire à un Jésus noir ou blanc ou jaune ou rouge, mais c'est croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu béni éternellement. Et la deuxième chose incontournable, c'est de naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire vous devez observer une nouvelle manière de vivre qui est calquée sur l'évangile du royaume. Et cela va permettre à Dieu de vous donner un nouveau cœur sur lequel il va semer les vertus du royaume. Ce qui fait que, frère, le bien, vous allez le faire de manière automatique. Obéir à la parole de Dieu, vous allez le faire de manière automatique. Aimer votre prochain, vous allez le faire de manière automatique. Frères, sœurs, essayez un peu de regarder. Peut-être Jésus peut revenir ce soir. Peut-être il peut revenir demain. On ne sait pas. Les signes sont accomplis. Mais ma prière à Dieu, c'est que s'il revient, que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois, il le dit à Nicodème, je t'ai dit que vous devez naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous sautez cette formalité, c'est que vous avez sauté votre salut. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?